Laudetur Jesus Christus.
Russes et Ukrainiens présents à Istanbul ce vendredi pour des discussions directes sur la guerre en Ukraine, des pourparlers sous médiation turque auxquels participent également les États-Unis. Mais avec beaucoup d'inconnus, nous retrouverons notre correspondante en Turquie au début de ce journal. À 48 heures du second tour de la présidentielle en Roumanie, l'écart semble s'être resserré entre le candidat souverainiste arrivé en tête et son rival pro-européen. Nous ferons le point à Bucarest. Dans ce journal, retour aussi sur l'instabilité politique chronique du Pérou, un quatrième Premier ministre vient d'être nommé en 3 ans seulement, alors que le pays andin n'arrive toujours pas à régler ses problèmes sécuritaires. Et puis dans notre dossier, ce matin, gros plan sur l'ordre de Saint-Augustin, la famille religieuse dont est issu le pape Léon XIV. Quel est le charisme de cet ordre né en Italie au XIIIe siècle? C'est la question que nous avons posée à notre invité, le père Abel Cavounou, membre de la province d'Italie.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, des délégations russes et ukrainiennes sont présentes depuis hier à Istanbul, en Turquie, pour y mener leur premier pourparlers direct depuis le printemps 2022. Ces derniers n'ont toujours pas commencé. La première rencontre devrait débuter d'ici 3 heures, a-t-on appris tout à l'heure. Et les modalités de tels échanges restent encore particulièrement floues. La Turquie, pays hôte, et les États-Unis également présents, espèrent relancer un dialogue direct entre les deux belligérants. À Ankara, Anand Lower.
En dépit d'un intense ballet diplomatique pendant toute la journée d'hier, l'incertitude continue de peser sur les pourparlers d'Istanbul entre l'Ukraine et la Russie. Dans la soirée, la délégation russe, menée par Vladimir Medinsky, conseiller du président Poutine, s'est entretenue avec le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, mais sans la partie ukrainienne. Ce vendredi, une série de rencontres sous différents formats sont à l'ordre du jour. Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé que des réunions trilatérales devaient avoir lieu. Une réunion entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie est déjà confirmée. Le reste du programme est encore incertain. Les États-Unis sont représentés par une délégation que dirige le secrétaire d'État Marco Rubio. Des discussions à 4 sont aussi envisagées mais sans être confirmées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était à Ankara hier pour un entretien avec le président Erdogan et a ensuite quitté la Turquie, a dit vouloir donner sa chance à un cessez-le-feu et essayer de faire au moins un premier pas vers la fin de la guerre. Mais les attentes restent minces. Le chef de la diplomatie américaine a confié jeudi ne pas avoir de grands espoirs pour ces pourparlers d'Istanbul. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Au Vatican hier, le pape Léon XIV a lui reçu le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine, Mgr Sviatoslav Shevchuk. Ce dernier a remercié le nouvel évêque de Rome pour ses premiers gestes et paroles en faveur de son pays. Le peuple ukrainien vous considère déjà comme le pape de la paix, a souligné l'archevêque majeur de Kiev. Votre appel pour une paix authentique, juste et durable est particulièrement d'actualité en ce moment et votre attention pour les prisonniers de guerre et les enfants déportés manifeste votre attention paternelle aux premières victimes de cette guerre en Ukraine, a-t-il dit. Des mots qui ont fait écho, bien sûr, à ceux du pape dimanche dernier à l'issue du Regina Coeli. Le nouveau pape qui a pu s'entretenir hier au téléphone avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, celle-ci a renouvelé ses félicitations pour son élection, réitéré au nom de son pays son soutien à l'action du Saint-Siège pour mettre un terme au conflit et assurer aussi son engagement commun pour le développement éthique de l'intelligence artificielle. Une conversation téléphonique pour le nouveau pape également avec le président français Emmanuel Macron au menu de leur échange. La nécessité de faire taire les armes partout où les conflits sévissent dans le monde et les efforts pour une paix solide et durable, en particulier en Ukraine et à Gaza. C'est ce qu'a partagé sur les réseaux sociaux le président français. Les Roumains élisent dimanche leur président lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le scrutin de la fin du mois de novembre dernier avait été annulé en raison des ingérences étrangères, en particulier russes, dans la campagne, et qui avait placé en tête un candidat d'extrême droite, Calin Georgescu. Le face-à-face final dimanche oppose un candidat nationaliste eurosceptique et un indépendant pro-européen. Les précisions de notre correspondant à Bucarest, Alex Diagonescu.
Les finalistes sont différents, mais le choix est presque le même. George Simion, le chef du parti souverainiste de l'Alliance pour l'unité des Roumains, qui a remporté haut la main le premier tour d'il y a 2 semaines, affronte dimanche le maire indépendant de la capitale roumaine, Nicu Jordan, qui s'est qualifié à peine dans la finale présidentielle. Pourtant, ce dernier aurait récupéré l'écart initial selon les derniers sondages qui placent les deux quasiment à égalité. George Simion approchait l'image d'un Donald Trump à la roumaine, à même de combattre tant le système, c'est-à-dire les partis ayant dominé l'État et la vie politique roumaine, qu'une Europe à la dérive. De l'autre côté, l'électorat de Nicu Jordan craint un éloignement de l'UE et de l'OTAN et la transformation de la Roumanie en un mouton noir de l'Europe dépourvue de fonds européens et de sa fragile démocratie. Pour les Roumains, l'avenir de leur pays se décide dimanche. De Bucarest, Alex Diaconescu pour Radio Vatican.
La fin d'une tournée spectaculaire au Moyen-Orient pour Donald Trump ce vendredi. Le président américain est depuis hier aux Émirats Arabes Unis. Cette première tournée à l'étranger l'a mené aussi en Arabie Saoudite et au Qatar, ces pays richissimes alliés des États-Unis qui ont été le théâtre parfait pour la diplomatie transactionnelle du chef de la Maison-Blanche. Des centaines de milliards de dollars de contrats ont en effet été annoncés avec Riyad, Doha ou encore Abu Dhabi. Le Pérou s'enfonce toujours un peu plus dans la crise politique alors que le pays andin traverse une grave crise de violence avec un taux d'extorsion et d'homicide record depuis le début de l'année. Le premier ministre péruvien a démissionné, de quoi fragiliser un peu plus la popularité de la présidente Dina Boluarte. Les précisions à Lima de notre correspondant Martin Chabal.
Gustavo Adriansen aura tenu 1 an et 9 mois en tant que Premier ministre et c'est presque un record sous la présidence de Dina Boluarte qui a déjà nommé 66 ministres en seulement 2 ans et demi. Mais la gestion très controversée d'Adriansen du cas de 13 employés d'une mine enlevés et sauvagement assassinés par une bande criminelle la semaine dernière aura eu raison de son mandat. Il n'a pas réagi assez vite et avait même remis en cause la prise d'otages sans pouvoir sauver les 13 mineurs. Et alors que le Congrès s'apprêtait à voter sa destitution, il a préféré les devancer et démissionner en début de semaine. Place donc maintenant à Eduardo Arana, l'ancien ministre de la Justice qui devient le 4e président du Conseil des ministres en moins de 3 ans sous la présidence de Dina Boluarte. Mais pas sûr que les Péruviens soient satisfaits de ce choix, Arana est très proche de Dina Boluarte et c'est même l'un de ses plus fidèles lieutenants, ce qui n'est pas une force au Pérou. Le dernier sondage Ipsos, sorti lundi, fait état d'une cote de popularité on ne peut plus bas pour la présidente. Elle frôle les 2% d'approbation et c'est encore moins qu'il y a 2 mois. Martin Chabal, à Lima. Pour Radio Vatican.
Le Pérou qui est la deuxième patrie du pape Léon XIV, c'est d'ailleurs dans son pays d'adoption que le pape a procédé hier à sa première nomination épiscopale. Monseigneur Miguel Ángel Contreras Larrojana a été nommé évêque auxiliaire de Callao, c'est près de Lima. Ce religieux mariste était jusqu'ici le vicaire épiscopal à la vie consacrée du diocèse. Ce diocèse de Callao dont Monseigneur Prévost avait été administrateur apostolique entre 2020 et 2021. En Éthiopie, la radiation du front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, est une sérieuse menace au processus de paix, dénonce cette formation qui a dominé pendant près de 30 ans la vie politique du pays. En novembre 2022, les membres du TPLF avaient signé en Afrique du Sud un accord de paix avec les représentants des autorités fédérales pour mettre un terme au conflit dans le Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie. Direction le Soudan du Sud, où les affrontements entre les forces gouvernementales et l'armée blanche gagnent du terrain et inquiètent le voisin éthiopien. Lundi dernier, des soldats fidèles au président Salva Kiir ont attaqué la ville de Bourbeye à la frontière avec l'Éthiopie. Notre correspondante Augustine Passillé a rencontré quelques-uns des 50 000 réfugiés qui ont traversé la frontière éthiopienne.
Le sol de l'hôpital primaire de la ville de Gambela est taché de sang encore frais. 4 blessés viennent d'y être admis ce mardi 13 mai au soir. La veille, les forces de défense du peuple sud-soudanais, fidèles au président Salva Kiir, ont atteint la ville frontalière de Bourbeye, où des milliers de civils et de membres de l'armée blanche, une milice d'autodéfense proche du premier vice-président Riek Machar, avaient trouvé refuge depuis le début des affrontements mi-février. Les tensions se sont accrues lorsque le gouvernement a annoncé le désarmement de l'armée blanche, conformément au volet sécuritaire du traité de paix qui a mis fin à la guerre civile il y a 7 ans. Les réfugiés que j'ai rencontrés décrivent des bombardements aux armes chimiques qui ont été dénoncés par Human Rights Watch. Ran Biom fait partie des victimes. Malgré les 3 semaines passées dans un hôpital d'Addis Abeba, ses membres restent marqués par de larges plaies rosâtres. « Le gouvernement tue les civils sans aucune raison, seulement car nous sommes nuers », déplore le jeune homme en référence au peuple auquel appartiennent les soldats de l'armée blanche, tout comme le premier vice-président en résidence surveillée depuis le 26 mars. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, sachez que parmi les rendez-vous du pape, ce vendredi figure son premier discours devant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Ce sera à 10h depuis la salle Clémentine du Palais Apostolique. Nous y reviendrons en détail dans notre journal de 13h, heure de Rome, ainsi que sur notre site vaticannews.va. Je suis un fils de saint Augustin, augustinien, qui a dit « Avec vous, je suis chrétien et pour vous, je suis évêque ». Ces paroles, ce sont celles du pape Léon XIV, le 8 mai dernier, le jour de son élection. Après un pape jésuite, l'Église catholique a donc élu un pape augustin, une première, là encore. L'ordre de saint Augustin, né au XIIIe siècle en Italie, est l'un des trois grands ordres mendiants avec les dominicains et les franciscains. Et le pape, avant de devenir évêque de Chiclayo au Pérou, en a été le supérieur général de 2001 à 2013. La vie communautaire, la charité, l'unité, la prière sont au cœur de la vie des Augustins. Comment leur spiritualité et la règle de saint Augustin pourront influer sur la manière de gouverner de Léon XIV? Et qu'est-ce qu'au juste un religieux augustin? Nous avons posé la question au père Abel Cavounou, il est prêtre augustin, membre de la province d'Italie.
C'est un vrai chrétien, pourquoi? Puisque saint Augustin lui-même, il s'est inspiré de l'Église primitive. Donc on en parle directement dans les livres des Actes des Apôtres. On dit la multitude des chrétiens avait un seul cœur et une seule âme. Ils mettaient tout en commun. Et c'est de là que saint Augustin est parti. Donc il n'a rien créé de nouveau, mais il a voulu particulièrement focaliser l'attention sur cet aspect-là. Donc saint Augustin est essentiellement un homme de communion.
Léon XIV, le soir de son élection, disait « Unis, main dans la main avec Dieu, l'unité est un élément constitutif et fondamental, véritablement, des Augustins ».
Oui, ce n'est pas marginal ou par hasard le fait que juste après les quatre évangiles, le livre que nous trouvons physiquement, disons, dans le Nouveau Testament, c'est le livre des Actes des Apôtres, donc pour dire qu'on a voulu perpétuer, continuer avec l'expérience du Christ. Et alors, saint Augustin, c'est pour enchaîner, pour donner de la continuité à cette expérience-là, c'est ce qu'il a voulu aussi récupérer, mais surtout en donnant une certaine originalité à cela. Et c'est là qu'on retrouve aussi une grande actualité de la spiritualité augustinienne. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle fraternité augustinienne séculaire, donc ce qui fait que ce n'est pas seulement un problème des religieux, mais il y a aussi les laïcs chrétiens qui ont été entraîné, disons, dans cette expérience.
La vie communautaire qui caractérise votre ordre, ça peut aussi influer sur la manière dont le pape Léon aura à gérer tous les problèmes de l'Église?
Oui, absolument. Il faut déjà considérer la gestion des ressources humaines qui n'est pas, disons, une mince affaire. Déjà, de ce point de vue-là, ça sera très important. Le pape sera l'homme juste pour pouvoir faire le discernement qu'il faut par rapport à la gestion humaine, mais même au niveau aussi de l'Église universelle. Et saint Augustin est d'une grande ressource pour ce qui concerne la catholicité de l'Église, puisqu'il a combattu contre les schismes et tout ça, donatisme, tout ce qu'il y avait comme tendance de division. Donc il a toujours recherché l'unité, mais l'unité ne signifie pas uniformité. Donc il tient compte des complémentarités, des différences. Là sont des ressources sur lesquelles le pape Léon XIV peut facilement se fier pour conduire la barque de Saint-Pierre.
Dans quelle mesure les paroles du pape depuis son élection révèle qu'il est augustin?
Il faut même partir de sa devise, non? In illo uno unum. En Christ, nous sommes un. Ça dit déjà tout de la règle de saint Augustin. Un seul cœur, une seule âme, tourné vers Dieu. Il ne suffit pas seulement d'être un, d'être uni, mais tourné vers Dieu. Et le pape l'a souligné dans cette devise-là, en focalisant l'attention essentiellement sur la figure du Christ. Moi, je pense que cela, c'est déjà bon comme point de départ, et je pense aussi sa simplicité, et même son premier voyage qu'il a fait, disons, sa première sortie de Rome. Il a été dans un sanctuaire de Père de Saint-Augustin, la Madone Vierge Marie du Bon Conseil. Il n'est pas venu seulement pour parler, mais il veut d'abord se mettre en écoute de la Vierge Marie, en écoute des autres, pour pouvoir lui aussi donner. Donc gratuitement, nous avons reçu, gratuitement aussi nous pouvons donner.
Voilà, interrogé par Xavier Sarthe, le père Abel Cavounou, prêtre augustin, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h. Excellente journée à tous.